petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Deux études retentissantes, mais il faut bien le reconnaître, totalement étrangères l'une à l'autre, ont mérité leur succès pendant la pandémie, qui n'est peut-être pas tout à fait finie d'ailleurs. En mars 2020, Joan Chapoutot, professeur d'histoire à la Sorbonne et spécialiste de l'Allemagne nazie, a publié chez Gallimard un livre très original, très lu, pertinent et philosophique, sur la fonction du manager aujourd'hui. Le titre du livre, « Libre d'obéir », c'est déjà un paradoxe, est toujours dans le titre « Le management du nazisme à aujourd'hui ». Chapoutot explique la rémanence de la culture nazie dans le management contemporain ultralibéral. Il y faut beaucoup d'audace. Je pressentais un peu la provocation ridicule. Et pourtant, au fil des pages, je me suis laissé convaincre, d'autant que ce professeur n'a rien d'extrémiste. Chapoutot termine son livre en espérant que la culture écologique pourra éradiquer le darwinisme social ambiant. En effet, rien de plus opposé que la philosophie darwinienne, celle de Darwin, et celle de l'écologie. Dans le management, le darwinisme néo-nazi est la glorification de la sélection naturelle et de la loi du plus fort, du plus battant. Au contraire, l'écologie prône une défense des espèces en perdition. En mars 2021, Business France publie son rapport sur les investissements étrangers en France en 2020. En 2019 et en 2020, la France est le pays européen le plus attractif des investissements étrangers. Ça aussi, hein, ça peut étonner, les Français étant tellement pessimistes sur la France. Évidemment, Business France développe des arguments économiques et fiscaux pour expliquer cette légère supériorité de la France, mais supériorité durable, de la France sur la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Ce rapport annuel, qui fait autorité, évoque, entre autres, l'attraction écologique de la France. Business France étudie l'importance de la politique environnementale dans cette attraction économique. Selon ce rapport, 89% des investisseurs étrangers pensent que la transition écologique est un facteur d'attractivité. Bon, certes, Business France raisonne à cet égard. D'abord, dans un souci de rentabilité et de profit des investissements. Mais pas seulement. Les investisseurs voient dans la transition énergétique une civilisation d'avenir. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que 64% des investissements étrangers en France proviennent de pays européens, c'est-à-dire de ceux qui, dans le monde, sont leaders de la lutte contre le réchauffement climatique. Quel est donc le rapport entre le livre de Chapoutot et le rapport de Business France? D'un côté, le management est en partie resté, comme Darwin le dit des espèces, un acteur de compétition acharnée et de quête de supériorité. D'un autre côté, l'écologie, sans divorcer ici des poncifs capitalistes de rentabilité, annonce une vision plus collaborative et pacifiante de l'avenir comme Chapoutot le prévoyait sans trop le savoir. L'itinéraire de Reinhard Hoelne a intrigué Johann Chapoutot. Ce docteur en droit fut sous Hitler général de la SS et directeur de l'Institut d'études sur l'État. Après 1945, cet ancien SS va créer et diriger une école de commerce en y étant professeur de management et théoricien de cette discipline. Il y a là une exceptionnelle continuité. Le cadre n'est pas celui qui décide des finalités de l'entreprise. Ça, c'est la fonction des hauts dirigeants. Mais ce n'est pas pour autant que le cadre serait un simple exécutant. Le cadre est libre d'obéir, entre guillemets, libre d'obéir, au sens où il a le devoir de trouver et mettre en œuvre les meilleurs moyens pour parvenir aux objectifs décidés et indiscutables, décidés par les chefs d'entreprise. Hannah Arendt l'avait dit, et on n'est déjà plus dans l'humain, car le propre de l'homme est, comme le dit Vatican II, d'être sujet et but de toute activité et pas simplement le moyen. D'ailleurs, même les top managers ne sont plus en fait que des exécutants d'un système qui les embarque. Je cite Chapoutot, « Ce qui compte, c'est le réglage, la croissance, l'aménagement court-termiste d'une productivité optimale, sans plus s'interroger sur le but de l'activité humaine. » Et ici, je cite encore un autre passage, « On aboutit à mettre en œuvre des moyens sans les fins. » Fin de citation. Le darwinisme est certes la théorie de la Shoah, du triomphe de l'Aryen soi-disant supérieur aux Juifs. Le darwinisme est aussi la mentalité de certains jeunes cadres dynamiques dont le but est de faire carrière en écrasant éthique, collaborateurs et concurrents. Le management d'aujourd'hui n'a heureusement pas hérité de la Shoah, mais son darwinisme est économique et social. Son discours est souvent celui de la performance, de la compétition, de l'agressivité, de la lutte pour la vie, de la survie du meilleur. Du coup, cette pratique l'emporte dans tous les domaines. L'hôpital, par exemple, doit être dirigé par des gestionnaires compétitifs non médecins et les soignants être soumis à des objectifs de rentabilité. Avant la pandémie, on s'opposait, nos gouvernants s'opposaient aux soignants dans la rue qui prophétisaient le péril de la pénurie hospitalière. Quelques mois après, on les applaudissait pour leur héroïsme malgré leur précarité. Et ce n'est pas la tare déshumanisante du seul capitalisme. La lutte des classes marxiste et darwinienne, le stakhanovisme stalinien a des relents de management nazi. On pourrait même en dire autant d'une certaine écologie dominatrice et extrémiste, certes minoritaire parmi les écologistes, plus porté vers la mise en place de moyens techniques que vers une transcendance de l'humanité et de l'humanisme des générations futures. Tout le monde n'est pas encore à la hauteur de Laudato Si du pape François. Thank you. Chapoulot est tout autant choqué par les propos de Didier Lombard, l'ancien PDG de France Télécom, expliquant que son plan qui consistait à supprimer 22 000 salariés en 3 ans, soit 18% des effectifs, bref, que son plan était une réussite et que les suicides en série des salariés oppressés avaient, dit-il, je le cite, gâché la fête. Le néonazisme du management est là. Ou plutôt, pour rester plus nuancé sur les mots, le darwinisme social est là, gagné à tout prix, sans trop savoir pour quelle fin, si ce n'est que la boutique tourne, gagné au prix de la vie des autres. L'entreprise et ses managers pataugent dans l'immanence de leur pathétique problème de gestion et surtout de gestion de carrière. Alors, pas partout, mais souvent. Nous souffrons d'un manque de transcendance, trop d'efficacité perdue pour rien, pas assez de transcendance pour donner du sens, pour donner une direction, une élévation, un dépassement. Les nazis croient en une transcendance, celle totalement désuète, de l'éternité de la race aryenne. Mais les managers ne croient souvent plus en rien, surtout quand ils abandonnent le syndicalisme qui leur permet un sortir de soi, une ouverture aux autres. Mais aussi, une transcendance trop coupée du monde peut donner lieu à une théocratie totalitaire. La transcendance qui donne sens et non-violence incarne l'absolu dans la dignité sacrée de chaque personne, bref, une transcendance dans l'immanence de chaque personne. Le manager a alors le souci du respect mutuel de la dignité de tous à l'intérieur de ses équipes. Et ce n'est pas l'amour propre, là. Ce n'est pas la fierté néo-nazie, mais la dignité universelle de chacun, faible ou fort. L'écologie intégrale, celle qui n'en reste pas à un naturalisme matérialiste, ouvre à une transcendance, à un sortir de soi. Carence d'un management darwiniste, voire même néo-nazi. Même les investisseurs aujourd'hui parient sur l'esprit de la transition écologique.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.